Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
À l'aube de la fête de la Pentecôte, on a plusieurs sujets aujourd'hui dans cet entretien, mais on va commencer par parler du pape Léon. Ça va faire un mois que le cardinal Robert Francis Prévost a été élu successeur de Saint-Pierre. Alors dans les premières prises de parole et premières décisions du pape Léon XIV, qu'est-ce que vous avez relevé? Qu'est-ce qui vous a touché, interpellé, intéressé particulièrement?
Sa foi, son sourire, son calme. Ce qui ressort des présentations qui sont faites de son parcours, de sa vie, sa dimension pastorale très très forte, son expérience très riche, religieux, missionnaire, évêque en charge à la Curie, à Rome, tout cela assumé avec visiblement une très très grande humilité, esprit de service. Et ce qui me touche aussi, c'est la manière dont, visiblement, les catholiques de tous bords et bien au-delà de la famille catholique, ils semblent être accueillis très, très positivement, avec beaucoup de bienveillance. Et donc, je me réjouis de cela et heureux de faire sa connaissance bientôt, j'espère.
Nous parlions de la paix la semaine dernière. C'est un peu son obsession, la paix, hein. Dès qu'il a l'occasion de prendre la parole, on a l'impression que son fil conducteur, le fil conducteur de sa pensée, certainement de sa prière, c'est ça, c'est le besoin de paix dans le monde.
On en parlait la semaine dernière, mais en effet, ça devrait être notre obsession à tous. Le Christ est le prince de la paix. Et la guerre, la violence, la haine, les divisions démentent tellement tout ce qu'il est, tout ce qu'il est, non, mais en tout cas tout ce qu'il nous demande d'être, nous, et pour annoncer son évangile, qu'en effet, nous devrions tous être obsédés par la paix.
Alors, il y a un autre point chez le pape Léon XIV qui est touchant, c'est précisément la manière par laquelle il est touché. Il ne cache pas sa sensibilité, on a pu le voir déjà assez souvent, très ému, presque les larmes aux yeux. Ça, c'est assez surprenant. On s'attend à un pape qui maîtrise ses émotions, et puis ben non, il nous montre qu'il est homme et qu'il est touché, qu'il est ému.
Ben voilà, vous avez tout dit. Le pape, c'est un chrétien, un homme de foi qui a donné sa vie, qui a reçu la vie de foi dans le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, comme tous les chrétiens, puis qui a un jour entendu l'appel de Dieu et de l'Église à donner sa vie et à servir peut-être comme consacré, comme prêtre. C'est ce qu'il a fait. Et puis que l'Église a appelé à être évêque et à créer cardinal un an et demi avant que les autres cardinaux ne l'élisent pape. Mais il reste le baptisé qu'il est, comme le disait saint Augustin, hein, qui est un de ses grands maîtres et grandes références spirituelles. Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. Ben, avec nous, il est chrétien, et pour nous, il est successeur de Pierre, mais il est d'abord avec nous chrétien, et donc engagé dans la foi, la suite du Christ, avec tout ce qu'il est, avec sa sensibilité, son intelligence et tout son être, voilà, comme chacun de nous.
Voilà, mais c'est l'occasion de ces jours-ci d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il soutienne, vienne en aide à notre pape Léon, qu'il le soutienne dans sa mission. Alors, Monseigneur, vous vous apprêtez à partir au Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire, si ce n'est pas un secret, pourquoi vous allez au Liban? Peut-être avec qui vous y allez? Qu'est-ce que vous allez y faire?
Eh bien, j'ai accepté il y a 2 ans l'invitation du père Jean Hazard et de sa famille. C'était le jour de son ordination presbytérale, le soir après l'ordination. Monseigneur, est-ce que vous connaissez le Liban? Non. Eh bien, nous vous invitons. Il faut à tout prix que vous connaissiez le Liban. Vous avez accepté d'ordonner un prêtre libanais dans le presbytérium de votre diocèse. Vous devez impérativement connaître l'Église d'où il provient. Et donc, j'ai accepté cette invitation, et c'est là qu'elle entre en action, si j'ose dire. Et donc, le père Hazard a programmé des tas de rendez-vous tout à fait solennels, officiels, avec le patriarche maronite, la conférence des évêques, les évêques latins, le nonce apostolique, et puis les communautés chrétiennes, des sanctuaires, des paysages, sa famille, et d'autres choses que je découvrirai au fur et à mesure.
Quand vous serez au Liban, on tâchera de vous joindre pour que vous nous donniez des nouvelles depuis cette belle terre. Alors, on va terminer avec une question qui concerne vraiment la vie du diocèse, et c'est une question qu'un petit peu tout le monde se pose. Alors, vous avez commencé à rencontrer les chrétiens ici ou là pour faire quelques annonces, mais quand même, la question qui trotte dans la tête de tous les diocésains, c'est quand est-ce que vous rendrez public l'ensemble des nominations, puisque vous en parlez régulièrement. On doit s'attendre à des changements. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, bien sûr, j'ai commencé depuis plusieurs jours maintenant à réunir soit les prêtres, soit les EAP, soit l'ensemble, qui sont les premiers concernés par les changements et les décisions au terme du processus enclenché depuis mai 23. Dont la journée du 7 décembre dernier a été un point d'orgue, et puis tout un travail aussi sur Tarbes, on va dire un peu plus provoqué par des circonstances locales, le retrait des frères prémontrés, le retrait des frères franciscains, l'entrée à l'abbaye de Tournaille de l'abbé Bertrand Chevalier. Bon, donc je suis dans la phase où j'annonce aux intéressés, Tarbes d'abord, et puis d'autres secteurs, ce qu'il advienne de tout ce processus de réforme des paroisses du diocèse, et comment, concrètement, chez eux, les choses se passent. Donc, au fur et à mesure que les prêtres sont au courant, que les EAP sont au courant, eh bien, les fidèles du secteur concerné sont au courant. Plutôt que d'attendre d'avoir fait le tour de partout, de tous les lieux, d'avoir obtenu l'accord de absolument tout le monde pour faire une annonce générale une fois pour toutes, quand tout est bien calé. Au fur et à mesure que c'est calé quelque part, on fait l'annonce pour ce secteur-là. Mais voilà, dans les tout prochains jours et au pire prochaines semaines, si j'ose dire, tout le monde sera fixé sur la nouvelle organisation du diocèse. Mais ce sera pas un scoop général, puisque de toute façon, la philosophie, la trame, l'architecture d'ensemble est déjà connue et partagée, soit par les interviews à la radio, soit par mes rencontres dans les visites pastorales de ces derniers mois, autour d'un concept, celui d'une paroisse unique qui est un lieu qui sert une communion de communauté, de proximité. Et donc, on va dire que les ensembles paroissiaux actuels qui se regroupent pour constituer une seule paroisse, avec un curé, une équipe d'animation paroissiale, un conseil économique, un seul compte bancaire à court terme, dans un an ou...
Oui, pendant que le chef se fasse.
Voilà. Bon, cette paroisse, le centre administratif de la paroisse où résidera le curé, le secrétaire, le secrétariat, s'il y en a un, enfin bon, etc., sera au service de la communion des communautés de proximité qui composent cette paroisse. Ça, c'est l'architecture générale. Et donc, il ne faut pas être grand clair pour deviner quels seront les 9 ou 10 centres des nouvelles paroisses du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Donc ça, c'est une certitude. 10 paroisses, le diocèse découpé en 10 paroisses, et des communautés, autant qu'il y a de chrétiens pour en créer.
Pour les paroisses, il faut au minimum un curé et une EAP. Pour les communautés de proximité, il faut des chrétiens. Et donc le but, c'est qu'il y en ait le plus possible en communion les unes avec les autres au sein de la même paroisse, et toutes les paroisses en communion au sein du même diocèse.
Si tout va bien, plus il y a de communion, plus il y a de chrétiens, plus il y a de chrétiens et plus il y a de communautés.
C'est exactement, et plus il y a de vocations aussi.
Tout cela prendra effet pour la rentrée pastorale au 1er septembre 2025. Tout cela sera déjà annoncé et mis en place pour se lancer dans cette nouvelle aventure, même s'il y aura peut-être ici ou là des choses à... Voilà, les choses vont peut-être prendre du temps.
Alors justement, on fait les choses selon deux axes. Le premier, c'est de déterminer l'architecture générale qui sera effective à partir de la rentrée de septembre, aussi bien pour le territoire du diocèse, les paroisses, que pour l'organisation des mouvements du diocèse et de la gouvernance du diocèse, refonte des différents conseils, etc. Ça, c'est une architecture d'ensemble qui sera effective dès la rentrée de septembre, mais on se donne ensuite une année pour pouvoir se laisser le droit de tâtonner, d'avoir imaginé quelque chose et puis de constater que ce n'est pas exactement ce qu'il convient, laisser le droit aussi à tel village ou telle communauté de proximité de changer de centre paroissial, parce que on est à la frontière d'eux et que dans la nouvelle configuration, finalement, on est plus près d'ici que de là. Bon, on se garde cette souplesse-là pendant une année pour mettre en place les affaires.
Donc ça veut dire aussi, si je vous suis bien, que vous allez laisser une certaine liberté aux personnes qui sont sur le terrain, qui habitent dans ces territoires, pour dire un peu la manière dont elles vivent ou voient les choses. Que ça vienne aussi du terrain, quoi.
Mais ça vient du terrain depuis le départ. Les personnes, elles ont la liberté en question depuis le départ. C'est ça la démarche synodale enclenchée par la journée diocésaine du 20 mai 2023. Sans cesse, les fidèles sont invités à participer, à donner leur avis, à le faire dans les règles de l'Église catholique pour ça. Et la démarche synodale, c'est pas chacun prend un haut-parleur et se met sur la place pour crier plus fort que le voisin. Il y a des procédures, des façons de faire. Les assemblées diocésaines ont permis de mettre ça en œuvre. Les EAP, les conseils pastoraux, le conseil pastoral diocésain, enfin, etc., etc. Toutes ces procédures sont pour que la liberté que chaque baptisé reçoit dans l'Esprit Saint puisse être mise au service de la construction de notre Église diocésaine et du bien commun.
Allez, ma dernière question avant de vous libérer, Mgr Mika. Ce week-end, nous fêtons la Pentecôte. Alors, samedi soir, lors des vigiles, vous confirmerez de nombreux adultes qui ont demandé à recevoir l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous demandez à l'Esprit Saint pour le diocèse? J'ai un peu une idée de la réponse, mais j'aimerais bien que vous nous le disiez vous-même.
Eh bien, devinez, j'ai envie de répondre. Je demande qu'il nous éclaire tous, qu'il nous réchauffe, qu'il nous embrase, qu'il nous donne beaucoup de joie et de dynamisme apostolique pour pouvoir être mus, d'abord et surtout par l'annonce de l'Évangile, le service de nos frères et en particulier les plus pauvres, et que tous les changements pour lesquels on peut avoir de l'appréhension, etc., etc., nous puissions les vivre vraiment motivés par l'exigence de servir l'annonce de l'Évangile, de servir nos frères mieux que nous ne le faisons aujourd'hui.
Merci beaucoup, Mgr Mika. À la semaine prochaine et d'ici là, très belle fête de Pentecôte.
Merci, très belle fête de Pentecôte à toutes et tous aussi.